Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous te remercions pour les trésors de la connaissance et de la sagesse. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui agit dans nos vies. Et tu es celui, Seigneur, qui nous montre la perspective de l'éternité. Merci pour ce livre de l'Apocalypse qui nous aide à comprendre, Seigneur, exactement ce que tu as en réserve pour nous pour l'éternité. Merci parce que tu ne veux pas que ta parole soit effrayante pour nous, Seigneur, mais elle l'est pour les inconvertis. Parce que tu as prévu, Seigneur, un certain nombre de choses selon ta souveraineté. Et Seigneur, elles s'accompliront, ces choses-là. Tous ces événements se produiront selon ta volonté, ta souveraineté et ce que tu as écrit d'avance dans ta parole. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, les événements prophétiques de la fin des temps, Seigneur. Merci pour ta parole. Illumine les yeux des cœurs pour que nous puissions comprendre et que nous puissions avertir celui qui est dans le péché, celui qui ne te connaît pas, Seigneur, pour qu'il puisse se joindre au peuple de Dieu, qu'il puisse faire partie, Seigneur, de ce merveilleux voyage pour l'éternité que nous allons tous faire ensemble avec toi. Seigneur, merci pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, nous étudions l'Apocalypse et je vous rappelle que l'Apocalypse n'est pas un livre pour faire peur. Mais au contraire, c'est un livre de révélation. Et dans ce livre de révélation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de richesses. C'est pour ça que nous étudions verset par verset, de telle façon que nous puissions avoir l'intelligence de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas écrit sa parole pour que nous ne la comprenions pas. Maintenant, j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu ne révèle pas des choses de sa parole n'importe comment à n'importe qui. Ce que Dieu fait très souvent, c'est qu'il va d'abord nous amener dans différentes dimensions, nous tester, nous donner une certaine révélation sur sa parole. Et plus nous comprenons le monde de Dieu, plus il va commencer à nous révéler des choses qui vont être profondes. Et à ce moment-là, on commence à avoir l'intelligence de cette parole. Et on va beaucoup plus profondément. Parce que Dieu, je vous le rappelle, veut un peuple intelligent. Dieu ne veut pas un peuple qui ne sait rien sur sa parole. Un peuple ignorant qui se laisse manipuler. Mais Dieu veut un peuple fort qui connaît exactement ce qu'il veut dire. Et particulièrement dans l'Apocalypse, dans la doctrine de la fin des temps, Dieu veut donner à son peuple la compréhension des mystères de ce qu'il va faire. Donc je vous rappelle que Jean, au début, a cette révélation de Jésus, la vision de Jésus.
Et
je vous ai montré ce que c'était que les visions, etc. Nous avons vu que Jésus se révèle comme Jésus glorifié. Jean est saisi par la puissance de Dieu.
Il
s'écroule sous la puissance de Dieu.
Et ça,
c'est le chapitre 1. Et puis le Seigneur va donner un message aux sept églises. Nous l'avons vu, chapitre 2 et chapitre 3. Nous avons vraiment étudié ces chapitres en détail. Et puis d'un seul coup, à partir du début du chapitre 4, on ne voit plus l'Église. D'un seul coup, et depuis, à partir de ce moment-là, jusqu'au bout, on ne parlera plus d'église locale. On
ne
va plus parler d'église telle quelle. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer un événement. Et pour décrire cet événement, eh bien, Dieu d'abord nous donne une scène céleste au chapitre 4. Nous montre ce qu'il y a dans le ciel. Ce que nous verrons nous-mêmes. Tu n'auras plus ton corps quand tu vas aller au ciel. Mais ton esprit et ton âme voient toujours. Mais tu ne vois plus seulement dans le monde naturel, tu verras dans le monde spirituel.
Et
dans le monde naturel. Ce qui te voile aujourd'hui la face du monde spirituel, c'est ton corps. Notre corps ne nous permet pas de voir dans le monde spirituel. Dieu nous donne une révélation de son trône.
Et
nous avons vu tout ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Les chérubins. Nous avons vu les 24 vieillards, anciens. Et puis le peuple des rachetés qui est autour du trône aussi. Nous savons aussi qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus du trône. Une mer de verre comme du cristal. Qu'il y a l'agneau aussi. Et ça, c'est au chapitre 5. Et là, on va commencer à parler d'un livre scellé de sept sceaux. Nous l'avons vu. Et personne n'est digne d'ouvrir ce livre avec les sept sceaux, sauf l'agneau. L'agneau qui a vaincu, c'est-à-dire
Christ.
Et là, au chapitre 5, on va voir que le seul qui va ouvrir ce livre, qui aura l'autorité, c'est Jésus. Et ça va commencer au chapitre 6. Et au chapitre 6, nous savons que c'est le déclenchement de la tribulation. Mais alors, quand on parle de tribulation, nous savons qu'il nous faut d'abord des fondations, de comprendre un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je vous ai montré qu'il y a trois piliers indispensables de la connaissance de Dieu qui nous permettent de comprendre après la suite des textes, sinon on ne peut rien comprendre. D'abord, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous avons vu que Jésus va venir chercher son Église. Ça sera la première phase de la première résurrection. Le peuple de Dieu sera réuni dans les airs avec Jésus et il va aller au troisième ciel. Donc ceux qui seront vivants vont être instantanément changés, mais d'abord, juste avant cela, il se passera la première phase de la première résurrection. Alors, que va-t-il se passer pendant qu'en bas il va y avoir la tribulation? Il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et vous avez vu que le tribunal de Christ, c'est ni plus ni moins eh bien, un jury de récompense. C'est pour ça que Dieu, à ce moment-là, va nous donner la gloire qui nous revient. Par rapport aux œuvres que nous aurons faites dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de surprises ce jour-là. Mais
ce
n'est pas une question de salut, nous sommes sauvés. C'est une question de récompense. Je vous rappelle que votre récompense, vous devez la gagner. Et votre récompense vous donnera une position plus ou moins importante dans le millénium. C'est là où nous allons régner.
mais
aussi pour l'éternité. Et là aussi, nous régnerons. Donc il y a un double règne que nous ferons, que nous aurons avec
Christ.
Alors, bien évidemment, la troisième fondation qui est aussi très importante, c'est évidemment de comprendre ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle les 70 semaines d'années de Daniel. Et là, d'abord, je vous ai montré la statue de Daniel, Daniel chapitre 2. Et dans Daniel 2, nous avons vu les différents empires et puis la petite pierre qui va écraser tous ces empires, c'est-à-dire c'est le symbole du royaume de Dieu. Et
qui
va naître de cette petite pierre,
qui
va se répandre dans le monde entier. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui paraît être insignifiant aux yeux des inconvertis.
Mais
c'est ce royaume qui est éternel et qui ne sera jamais dominé par un autre royaume. Et cette petite pierre, c'est Christ qui va venir frapper la statue, symbole du système de ce monde, qui va faire écrouler les systèmes de ce monde. Et je vous ai expliqué, le Seigneur est propriétaire de la terre. Il avait mis une extension de son royaume sur la terre. Adam et Ève devaient gérer la propriété. Ils se sont donnés au diable et ils ont légué leurs droits au diable. Mais Dieu veut récupérer la gestion de sa propriété.
C'est
l'objectif de Dieu, la restauration et l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Donc nous avons vu clairement que Dieu va faire un certain nombre de choses pour récupérer la gestion de sa propriété. Et nous avons vu que du moment où l'ordre est donné de reconstruire Jérusalem au 6e siècle avant Jésus, jusqu'au Messie qui est retranché, c'est-à-dire Jésus, qui meurt sur la croix, il y a ce qu'on appelle 69 semaines d'années, c'est-à-dire 483
ans.
Et l'ange parle à Daniel et lui dit, il y a 70 semaines d'années, c'est-à-dire 490 ans, donc il reste 7 ans.
Et
mais nous avons vu que tous les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas le temps de l'Église. Il allait y avoir une coupure entre la 69e semaine d'année et la 70e. Et c'est le temps de l'Église. Donc il reste une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans, à être exécuté. Et c'est exactement ce qui se passe à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse. C'est la tribulation. Et nous avons vu qu'il va y avoir 6 sceaux qui vont être exécutés, ce sont des, enfin, ouverts, c'est-à-dire ce sont en grande partie des jugements de Dieu. Et là aussi, je vous rappelle que la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'antichrist qui décide. Au début de la tribulation, parce que l'Église aura été enlevée, il n'y aura que des inconvertis. Beaucoup de gens vont se poser des questions sur le christianisme et vont se convertir. Mais nous avons vu, il y a un autre front qui va se monter, c'est le front du mal. Où il y a beaucoup d'inconvertis qui vont dire non, qui qui vont se donner aux puissances sataniques.
Bemerewe bakoreshwe n'ubushobozi bwa Satani.
Et la Bible nous parle qu'il va y avoir l'iniquité qui va grandir comme jamais.
Bibiliya ivuga ngo hazoba ngo ubuyobe ubugesera ikibi kizoba cinshi cyane.
Il va y avoir des choses horribles qui vont se passer sur la terre.
Habi bintu biteye ubwoba bizoba ku isi.
Et nous avons vu que Dieu va intensifier ses jugements.
Twarabonye ko Imana azogera igikagwiza ibihano byayo.
Et le mal va monter aussi.
Hamani kibi naco ku rundi ruhande.
Et il va y avoir une immense confrontation de puissance.
Hache haba ukugwana k'ubushobozi.
Plus nous avançons dans la tribulation,
plus
il va y avoir des confrontations de puissance. Alors, c'est pour ça que là, nous allons étudier les différents les sept sceaux. Et à chaque fois qu'il y a sept, qu'on arrive au septième quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Il y a les six sceaux que Dieu envoie.
Et
nous avons vu différentes choses. Nous avons vu la détermination de Dieu à vaincre. Premier
sceau.
Deuxième sceau, nous avons vu la guerre des nations, entre les nations. Et puis nous avons remarqué qu'en parallèle, Matthieu 24, c'est exactement ce qui se passe aussi. Je vous rappelle que Matthieu 24 n'a rien à voir pour, Matthieu 24 n'est pas pour l'Église.
C'est
la tribulation. Et Matthieu 24 nous montre un début de la tribulation qui n'est pas facile.
Mais
ça va monter en violence et en confrontation de puissance. Le troisième sceau, Dieu envoie une crise économique mondiale. Ensuite, il va faire périr au quatrième sceau un quart des êtres humains. Au cinquième sceau, Dieu fait une différence entre son peuple et ceux qui ne le servent pas. Et au sixième
sceau,
Dieu va envoyer des tremblements de terre. Dieu va amener à ce que toute la terre soit secouée. Mais je vous ai dit, il faut faire attention parce que des fois, la Bible parle d'un langage figuratif. Par exemple, les étoiles qui tombent du ciel, ça ne peut pas être un langage direct. Ça veut dire les puissances vont se déchaîner, les puissances spirituelles. Alors, chapitre 7, nous avons vu, il y a une parenthèse. Et on a vu que la première partie du chapitre 7, on parle de 144,000 qui vont être sauvés, des Juifs. 12,000 de chaque tribu. Et là, nous sommes posés des questions parce qu'on s'est dit, mais est-ce que ça va être tous les Juifs qui vont être sauvés dans la tribulation? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle d'un grand réveil en Israël juste à la fin de la tribulation.
Et 144,000,
non. La Bible nous dit que dans Romains 11, que tout Israël sera sauvé.
Israël yose izokizwa urumva si 144,000 gusa bazokizwa.
144,000 cela ne représente pas tout Israël.
Aba rero nabo ntiberekana sibo Israël yose.
Donc on a l'impression que dans la première partie de la tribulation.
Biboneka rero yuko mu gice ca
mbere cyane. D'après ce qu'on peut comprendre dans ce texte.
Uravye ivyo bavuga muri kino gice.
Eh bien il y aura 144,000 juifs qui vont être sauvés.
Hazoba abayuda 144,000 bazokizwa.
Et dans l'autre partie, ce qu'on appelle la grande tribulation.
Ha mu gice ca kabiri cihamwe ico bita ihamwe rikuru.
Là, il va y avoir un immense réveil juste à la fin. Israël va subir des trahisons, particulièrement de l'Antichrist. Nous allons expliquer cela. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est juste à la fin du chapitre, enfin, l'autre moitié du chapitre 7, on voit tout le monde, enfin tous ceux qui ont été mis à mort pendant la grande tribulation. Et puis on voit des gens de toutes nations dans le ciel en train de louer et adorer Dieu. Alors, nous en étions au chapitre
twari tugeze rero ku gice 18
et là on arrive au 7e saut
tugeze kuri cha kagashashara kindwi kanyuma
mais le 7e saut va amener une ouverture aussi encore de 7 autres jugements
agashashara kindwi twari twabivuze gatanguye karimo utundi duhano indwi muri ko.
Jusqu'au sixième sceau, chaque sceau était soit un jugement, soit une protection pour le peuple de Dieu. Mais là, le septième
sceau
va être décomposé en sept trompettes. Et nous allons voir qu'il y a les six premières trompettes où il va y avoir des jugements de Dieu. Et la septième trompette va être l'ouverture à la victoire finale, l'écrasement final de tout ce qui est puissant satanique. Et ça va être les sept coups de la colère de Dieu. Donc je vous rappelle, il y a des accélérations dans les jugements de Dieu. Septième saut va amener sept trompettes, jugement de Dieu, et puis la septième trompette. Il va y avoir les sept coupes de la colère de Dieu. Intensification, parce que je vous le rappelle, dans cette partie-là, la terre va être vraiment complètement secouée par des puissances sataniques. L'Antichrist va être là, va avoir le gouvernement mondial. Les persécutions gigantesques contre les chrétiens. Pardon. Les gens vont se donner aux puissances sataniques. Et un bon nombre aussi de gens qui se seront donnés à Christ vont renier Christ et perdre leur salut. Tellement ils vont être persécutés et tellement ça va être difficile de rester chrétien dans ces
temps-là.
Donc tout ça, nous l'avions vu. Et maintenant, nous allons donc aborder ce chapitre
8.
Et il est dit, quand il ouvrit le septième sceau, on va relire les premiers versets que nous avions lus. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 1. Il y eut un silence. Et je vous ai montré que parfois on a l'impression que Dieu se retient et d'un seul coup, il envoie quelque chose. Ça va être vraiment le point final du jugement de Dieu. Sur la terre. Au verset 2, il est dit: je vis sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Alors, je vous rappelle, la trompette, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet de se préparer pour la guerre. Ça permet aussi de réunir un peuple. Ça permet de faire différentes choses. Mais la trompette, c'est toujours un signal qui amène un déclenchement de quelque chose. Alors donc, il y a sept anges à qui on donne une trompette chacun. Et ça, c'est pour sonner les derniers jugements que Dieu va envoyer sur la terre. Alors maintenant, au verset 3, il est dit, on va lire ensemble, donc le verset 3, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône.
On
va lire le verset 4 et le verset 5 aussi. La fumée des parfums monta et les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Les anges prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre.
Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro wo ku gicaniro ashiburira mu isi Alors,
c'est étonnant, mais là, on va découvrir qu'il y a un autel. Pas un hôtel où il y a des chambres pour habiter, un hôtel. C'est-à-dire comme une sorte de table spéciale. Où on va faire des choses saintes. Où Dieu va répandre sa gloire. Et la Bible nous parle ici. Nous parle de l'encensoir. Du feu. Et ceci ressemble très largement à la vision d'Ésaïe chapitre
6.
Regardons ensemble Ésaïe chapitre 6, versets
4
à 7. Alors, on peut lire peut-être à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Ouzias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Vous voyez ici ? Verset 5. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, donc une pierre qui était enflammée, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
Ngomumwaka umwami Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana abyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yarafise amababa 6 abiri yayitwikiriza mu maso yandabiri yayitwikiriza ibirenge yandabiri yarayagurukisha babarirana basemerera batuweruweruwera ni uhoraho nyene ingabo isi yose yuzuye icubahiro ciwe amatanguriro y'imijyango anyiganyizwa no gusemerera kwabo inzu yuzura umwotsi maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko ndumunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyene ingabo maze umwe mu baserafa araguruka azaho ndafise ikara ryaka mu ntoke yakoje yokoje ikimano ku gicaniro ari nkoza ku munwa arambarira atehe irikoze ku minwa yawe ukugabitanya kwawe ugukuweko icaha cawe kirahongewe.
Alors ici on voit une scène céleste.
Aho tubona ikintu Yesaya tubwira kiriko kiraba mu ijuru.
Qui se passe 700 ans avant Jésus.
Kandi avyeretswe imyaka 700 imbere yuko Yesu aza mu isi.
Et en fait, on voit Isaïe qui a cette vision.
Turabona rero Yesaya yerekwa ibi bintu.
Et qui voit aussi un hôtel.
Akabona nawe nyene ngo igicaniro.
Et il y a apparemment un certain nombre de choses qu'on le retrouve.
Lisons
le verset suivant. Il est dit, il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc on voit un certain nombre de choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on vient de lire. On voit ce fameux hôtel. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ressemblent à ce que nous avons vu précédemment. Et ça, c'est quelque chose que... Vous voyez, les passages parallèles de la Bible nous parlent. On va revenir maintenant dans l'Apocalypse. Vous savez, quand vous comparez les visions du ciel dans la Bible, il y a des choses qu'on retrouve. Et c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que ça, je le retrouve dans telle vision ou pas ? Vous savez, s'il y a des passages qui sont ce qu'on appelle parallèles, qui parlent de la même chose,
et
bien quand vous les comparez, ça vous donne une image avec de la perspective. Vous savez, c'est comme si vous prenez des photos, si vous prenez une photo d'un paysage.
Bon,
vous transformez quelque chose en 3 dimensions, ça devient en 2 dimensions. Ça devient plat. alors que c'est une perspective.
Cyari kintu gisanzwe kiriho kibaho kifise imice myinshi ukagishira ahantu ushobora kukirabisha amaso ku ifoto.
Donc quand vous regardez une photo, vous pouvez dire oui, je connais ce paysage.
Urashobora kuraba ifoto ukavuga uti aha hantu ndahazi.
Oui, mais si jamais tu as plusieurs photos de différents angles,
ariko nkubu dufate habaye amafoto menshi yaho hantu,
tu auras une meilleure connaissance.
Wocugira ubumenyi bwinshi burushirije,
même sans avoir été dans l'endroit.
Nubwo woba utigeze uja muri cyo kibanza.
Tu verras des détails, des choses que tu ne peux pas avoir juste avec une seule photo. C'est un peu ce que fait la Bible quand il nous décrit différentes, par différents passages, une même scène. Ce qui te permet de comparer et puis de retrouver des choses communes et de commencer à pouvoir asseoir ta foi et tes convictions. Donc ici, la Bible nous parle de quelque chose.
Hein,
donc, au verset 3, on va revenir dans Apocalypse
8.
Il y a un autel. Il y a un encensoir d'or, c'est-à-dire là où l'encens, c'est, ça produit la fumée, une sorte de fumée. On parle de parfum. Et on parle d'offrir. Et tout ça, c'est le symbole de l'adoration, l'encens, les parfums, mais aussi les prières des saints. Et il est dit, la fumée des parfums, verset 4, monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand nous prions, nous nous imaginons pas ce qu'il y a dans le ciel. On a vraiment des difficultés par rapport à la prière. Parce que très souvent, les chrétiens prient, puis voilà, bon, ils prient, quoi.
Mais ils ne se rendent pas
compte qu'il y a des choses qui se produisent dans le ciel. La Bible nous dit, dans 1 Jean 5, 14, on va lire ces passages.
1
Jean
5, 14
et Éphésiens 2, 18. Quand tu t'adresses à ton Père, c'est vrai que tu es sur la terre.
Mais
ta prière monte vers le ciel. Quand elle est faite dans certaines conditions. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 14, que nous avons auprès de lui cette assurance, nous ceux qui sommes nés de nouveau. Nous qui avons un droit, un accès auprès du Père, Éphésiens 2, 18, dans une minute, on va le lire. Quand tu te mets vraiment sincèrement dans la foi, que tu as une promesse de ton Père, que tu t'approches par la foi, c'est ce que tu dis sur la terre va monter au ciel. Et la Bible nous parle. Ici on voit des anges prendre des prières et les présenter devant Dieu. Les prières de qui? Les prières des saints. Ce n'est pas les prières des anges. Elles sont déjà au ciel. Mais c'est nos prières, frères et sœurs. Tu sais, tes prières sont précieuses devant Dieu. Il y a vraiment un regard sur la prière qui doit être changé chez beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les scènes célestes qui se produisent quand ils sont en train de prier. Quand tu fais les choses selon Dieu, ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Ça me fait penser à ce passage, vous savez, quand Noé est sorti de l'arche et il va commencer à offrir un sacrifice à Dieu. Et la Bible nous dit que l'odeur du sacrifice est montée vers Dieu et que c'était d'une odeur agréable.
Non, ce
n'était pas l'odeur de la viande grillée qui était agréable à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut retrouver ce passage? Je suis en train d'y penser. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 9. Oh, ça va être intéressant. On va regarder un petit peu. Juste quand... Noé va sortir de l'arche.
Noah asohotse avuye mu bwato.
Il y a juste un passage qui nous parle de ça. Si quelqu'un peut le retrouver rapidement, je l'avais pas noté dans mes notes parce que ça m'y fait vraiment penser. Noé va offrir un sacrifice.
Noah ashikanira Imana ikimazi.
Et Dieu va, ça va être d'une bonne odeur devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le retrouver rapidement? Je suis en train de le chercher. Il sort et il est là. Ah voilà, j'ai déjà retrouvé. 8, 21. Très bien. Verset 20 et verset 21.
Genèse
8, verset 20 et 21. Voilà, verset 20 s'il vous plaît. Voilà. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Vous voyez là encore. Un autel à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faisait des monticules de pierre à l'époque. Il est placé d'une certaine façon pour faire quelque chose de plat, en partie. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Vous voyez ici? L'Éternel sentit. Je vous dis, c'était pas l'odeur de la viande ici. C'était, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus l'homme,
etc.
C'est vrai que quand les gens lisent ce passage dans la chair, ils pensent aux choses naturelles de la viande qui brûle.
Et la fumée
qui monte, et comme si la fumée allait monter jusqu'au troisième ciel. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça, c'est l'attitude qu'il y a derrière tout ça. C'est le désir de plaire à Dieu. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu es né de nouveau. Reprenons à Jean 5, 14. Quand tu es né de nouveau, depuis que tu es né de nouveau, la Bible dit que quand tu pries ton Père, selon sa volonté, si nous avons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ta prière monte comme un parfum de bonne odeur devant
lui.
C'est pour ça d'ailleurs que même quand nous louons et nous adorons Dieu vraiment avec l'attitude scripturaire,
eh
bien Dieu répand sa présence. C'est comme si ces prières, donc la louange, l'adoration ou ce qu'on demande au Seigneur, ça monte vers le ciel et Dieu renvoie sa présence en disant: je vous aime, je suis là pour vous, je suis avec vous, je vous soutiens, je vous guéris, je vous touche, je vous change, je vous influence, je vous donne ma paix. Vous voyez, c'est le retour de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est insensible. Souvent on pense que Dieu est là et il est sur son trône. Pendant des siècles, en attendant que Jésus revienne. Que Dieu nous donne la grâce d'aller faire un tour là-haut, je pense que ça nous donnerait quand même une autre perspective. Non, nos prières, frères et sœurs, sont comme un parfum de bonne odeur devant sa face. Et apparemment, les anges viennent présenter nos prières. Nos prières passent au travers du Seigneur Jésus-Christ. Regardons Éphésiens.
Chapitre 2,
verset 18. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit, que nous avons cet accès, Éphésiens
2, 18.
Par lui, par Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18.
Donc,
la Bible nous dit, en revenant à Apocalypse 8, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange. L'ange prit l'encensoir, verset 5, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.
Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana n'ugusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika jana icotero acuzuza umuriro wo ku gicaniro ashiburira mu isi habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita ku isi.
Là c'était vraiment ces saints qui ont crié à lui qui était en train de souffrir sur la terre.
Aha biraboneka ko arabera bari ku isi bariko barababazwa bariko barambaza Imana.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu va envoyer sur la terre la suite de ses jugements. Mais de cette scène céleste, nous pouvons comprendre certaines choses. Comment Dieu reçoit nos prières. Et comment il les répond et il renvoie la réponse sur la terre. Rappelez-vous, vos prières ne doivent pas être un ticket aller seulement. Dieu doit envoyer la réponse. Aller, retour. Tout ce qui ne revient pas sur la terre comme réponse divine prouve que l'aller n'a pas été bien fait selon Dieu. Donc la Bible nous montre aussi qu'il y a un feu ardent sur cet autel. Donc ça complète un peu la vision que nous avions vue au chapitre 4 du ciel.
Et
effectivement, nous retrouvons un peu plus tard cet aspect d'autel devant le trône de Dieu. Alors verset 6, là on voit que les sept anges qui tiennent sept trompettes se préparent à en sonner. Et là, effectivement, on va voir les jugements de Dieu qui vont continuer. Donc, il va y avoir la première trompette qui va sonner au verset 7. Il est dit, le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé et toute herbe verte fut consumée.
Ngo uwambere aravuza haza urubura n'umuriro bivanze na maraso bishiburirwa mwisi ikigira gatatu cisi kirasha ikigira gatatu cibiti kirasha ivyatsi bibisi byose birasha.
Alors apparemment ici ça va être d'immenses éclairs que Dieu va envoyer, des éclairs.
Aha biraboneka ko ari miravyo minini minini Imana izorungika.
Certaines, Dieu parle de grêle ici.
Aha Imana ivuga ngo ungurubura n'umuriro.
Et vous savez, parfois dans certains pays, vous avez de la, comment dire, vous avez des éclairs. Les nuages se frottent les uns contre les autres. Il y a une gigantesque électricité qui se produit. Et qui, au bout d'un moment, crée ce qu'on voit, c'est-à-dire des éclairs comme des arcs de feu. Et dans certains pays, pour l'instant, on voit ce genre de phénomène. Mais parfois, ça enflamme des. Si ça tombe sur des maisons, la maison va bouder. En fait, vous voyez les nuages qui s'accumulent. Mais il
n'y
a pas de pluie qui tombe. Et vous voyez comme du feu qui descend du ciel.
Il
y a certains pays, par exemple en Australie, ça se produit parfois. Ici, on ne voit pas trop ça, mais il y a des feux de brousse comme ça qui s'allument. Mais ça, c'est encore naturel. Là, c'est Dieu qui va envoyer. Et la Bible nous parle que la terre va être brûlée sur un tiers. Les arbres, l'herbe verte. Dieu avait dit dans la Genèse, Genèse 9, versets 12 à 16. Rappelez-vous que Dieu a jugé la terre une première fois. C'est la première fois où Dieu va juger la terre quand l'homme créé à son image s'y trouvait. Rappelez-vous que c'est avec le déluge. Sinon, quand Dieu va juger les hommes, ça va être plus des jugements qui vont être localisés. Rappelez-vous, hein, je vous l'ai expliqué ça. L'Égypte,
Égypte,
ou Israël, quand Israël faisait la guerre contre les ennemis. Dieu jugeait les ennemis d'Israël.
Et
on voit donc, c'est très précis. Il y a eu un certain nombre de phénomènes parfois.
Mais
Dieu a agi sur le climat. Le déluge en est un exemple parfait. Dieu a fait pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Et là, c'était Dieu. Mais rappelez-vous, les cataclysmes naturels, sauf quand c'est marqué dans la Bible, ne sont pas de Dieu. Ça vient du mauvais gestionnaire. Rappelez-vous de ça. Faites attention à ça. Parce qu'il y a une confusion très, je dirais, en général parmi les chrétiens. Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Donc, le déluge est terminé, la famille de Noé est sortie de l'arche, et il dit, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Donc, c'est l'arche de l'alliance. L'arc-en-ciel. J'ai placé mon arc dans la nue, c'est-à-dire dans le ciel, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Regardez bien, verset 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel qu'on voit quand il pleut. Je vais vous expliquer ce que c'était que les arcs-en-ciel. On l'a vu au-dessus du trône de Dieu, il y en a un, spirituellement parlant. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
Ngo Imana iravuga iti niki iki nico kimenyamenya cisezerano mbasezeraniye mwe nibifise ubugingo byose muri kumwe ukurunganwe gwanyu ruzogenda rukurikirana gushitsa ibihe byose shize umuheto wanje kugicu niwo munwa amazi uzobikimenyamenya cisezerano sezeraniye isi nuko nzozana igicu hejuru y'isi uwo muheto w'umunwa amazi uzobabonekera kuri co nanje nzokwibuka iryo sezerano ryanje shize hagati yanje namwe bo nibiri n'ubugingo byose bifise umubiri.
Regardons ensemble le verset 16 maintenant. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Donc Dieu nous dit clairement que Dieu ne détruira plus la terre par un déluge, par l'eau. Non, parce que pendant la tribulation, Dieu va frapper la terre par le feu. C'est comme ça que Dieu va frapper les hommes. Donc ici, dans cette première trompette qui va sonner, on est au septième
saut.
Eh bien, Dieu va envoyer le feu sur la terre au travers des éclairs. Donc déjà, un tiers de la terre va être consumée, imaginez-vous. Le deuxième ange, verset 8, sonna de la trompette. C'est la deuxième trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Le tiers des navires fut détruit.
Umumarayika wa kabiri aravuza. Ikimeze nk'igisozi kinini cha kumuriro gishiburirwa mu kiyaga. Ikigira gatatu cy'ikiyaga gihinduka amaraso.
Alors, si on peut essayer de comprendre ici ce qu'il est dit, c'est qu'il est clair que Dieu va secouer les plaques, ce qu'on appelle tectoniques, c'est-à-dire les plaques sous la mer. Nous savons qu'entre les continents, sous la mer, quand nous regardons toute la Terre, il y a ce qu'on appelle des grandes surfaces, qu'on appelle les plaques tectoniques, sur la croûte terrestre.
Donc,
Et quand il y a des tremblements de terre, on sait que ce sont ces plaques en dessous de la croûte terrestre qui sont en train de bouger. Mais aussi, on sait que, par exemple, le tsunami qui s'est passé en Asie, c'était une vague gigantesque qui faisait plus de 15 mètres de haut.
Une vague de la mer
qui d'un seul coup a déferlé sur un pays asiatique et a tout emporté sur son passage. Et on sait que c'est dû à ces plaques qui ont bougé. On sait que c'est dû à ce qu'on appelle l'activité volcanique. Qui vont faire bouger ces plaques. Et imaginez-vous, il y a eu juste ces plaques qui ont bougé. Ça a créé un événement. Ou dans le grand tsunami qu'il y a eu en Asie, il y a eu 200 000 morts.
Aho iyo tsunami yateye muri kirya gihugu cyo muri Aziya haba ibihumbi 200 by'abantu
bapfuye. Là, la Bible nous parle que les mers vont être complètement secouées dans tous les sens.
Bibiliya ngaye tubwira yuko ibiyaga bizonyiganyizwa mu buryo bwose.
Les bateaux vont disparaître.
Amato azimangana ari ku biyaga.
Et les bateaux ne peuvent pas disparaître comme cela s'il n'y a pas d'immenses vagues et d'immenses tempêtes.
Ubwato nibwo pfa kuzimangana gutyo hatabaye imipfunda ikomeye n'imiyaga ikomeye ku biyaga.
Donc pour moi en tout cas c'est comme ça que je peux interpréter le verset 8 et le verset 9. Où il est dit donc, verset 9, le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient souffle de vie, périt, et le tiers des navires fut détruit. Donc ça veut dire que les eaux seront complètement perturbées. Et on peut très largement penser que ça va être des tsunamis. Donc, dû à ces plaques tectoniques en dessous, parce qu'on parle de volcans. Donc on parle de choses qui bougent à partir de l'intérieur de la terre. Parce que nous savons qu'il y a une croûte terrestre qui représente plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur.
Mais
si vous creusez à quelques dizaines de kilomètres, il y a des choses incandescentes, c'est-à-dire ça devient chaud. Et c'est de la matière en fusion.
Kandi iyo umuntu abandanije yimba akamanuka ku birometero byinshi munsi haragira ahantu hakaba gushuha kwinshi cyane.
Et on sait que les volcans c'est comme si c'était il y a trop de pression et cette matière en ébullition, cette pierre qui est tellement chaude qui devient de la lave, c'est-à-dire du liquide, ça sort et puis à ce moment-là ça crée beaucoup de dégâts.
Kandi turazi ku birunga biva kuki nigiye usanga mwisi indani habaye gushuha cyane hariya munsi maze hakagera igihe bikaduga.
Mais parfois, ça fait des dégâts comme il y a eu au Congo, à Goma, il y a quelques années. Et là, ça sort au-dessus de la terre. Mais il y a aussi de la lave qui peut passer sous la mer.
Et
là encore, je tiens à vous le dire, ça c'est Dieu qui va faire ça. Parce que Dieu juge les hommes. Dieu va frapper. Je vous rappelle le contexte. On est dans le temps où l'Antichrist a mis son gouvernement mondial. Les gens sont obligés d'adorer la bête. Nous allons en parler, c'est justement ce que la Bible va dire après. Et Dieu est obligé d'envoyer ses jugements de plus en plus forts. En disant, vous allez voir qui est le Tout-Puissant. Vous allez voir qui est le propriétaire de la terre. Et ne touchez pas à ceux que j'ai sauvés.
Et
malheureusement, beaucoup de gens qui seront sauvés, je vous ai dit, dans la tribulation, vont renier Jésus à cause des persécutions. Ensuite, il est dit, verset 10, le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux qui étaient devenues amères.
ngo umumarayika wa gatatu aravuza inyenyeri nini iva mu ijuru iratibuka yaka nk'urumuri itibukira ku kigira gatatu cinzuzi no ku masoko iyo nyenyeri yitwa mururazi ikigira gatatu cy'amazi gihinduka umururazi abantu benshi bicwa nayo mazi kuko yarurishijwe.
Alors là, c'est assez intéressant de voir ce que Dieu va faire.
Tangaje kubona iby'Imana ngaha ikora.
Parce qu'en fait, Dieu va polluer l'eau, c'est-à-dire empoisonner l'eau.
Imana iraroga amazi.
Et ça, c'est très clair ici.
Aha biratomoye neza ko izobikora.
C'est-à-dire Dieu est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Il va y avoir une immense montée de l'iniquité.
Wovuga uti bwa bundi Imana imeze nabi oya ahubwo hazoba hariho ikibi caduze mwisi mu buryo budasanzwe.
Les gens vont être dans ce gouvernement mondial à adorer l'antichrist et la bête.
Abantu bazoba bari muri yo si mpuzamahanga yo leta mpuzamahanga basenga antichristo basenga igikoko.
Ils vont faire de tels pactes avec le diable qu'il n'y aura jamais autant d'activités sataniques démoniaques.
Abantu bagiranira amasezerano na Satani ku buryo hatigeze kuboneka ibikorwa bya Satani nk'ibizoba ibiriko birabico gihe.
Nous avons lu ces textes la dernière fois.
Ibitwara bisomye buherutse.
Nous savons que c'est l'abomination de la désolation comme dit Jésus.
Aho tuzi yuko ngo nimwabona ngo ubuyobe bw'ubugese nk'uko
Yesu yavuze. Sera dans je dirais répandu comme ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité.
Ikibi kizoduga kibe cinshi uko bitigeze kuboneka muri kahise
kiso. Tout est anti-dieu.
Byose bigwanya Imana.
Tout est satanisme à fond.
Byose bibi bya Satani
mu buryo satanique à fond.
Amasezerano na Satani abantu bitange.
Avec même de possibilité de faire marche arrière.
Ku buryo umuntu atazoba anagishobora gusubira inyuma.
Les gens qui vont adorer la bête et la marque de la bête ne pourront plus revenir en arrière.
Abazotangura gusenga igikoko no gushigwa ko cakamenetse igikoko nibaza bagisubira inyuma ngo bihane.
C'est pour ça que je vous dis à chaque fois qu'on lit ce genre de jugement, on se dit mais Dieu est... Non. Dieu est en train de faire des choses parce qu'il y a un contexte. C'est pour ça que je vous rappelle ce contexte régulièrement. Parce que sinon, quand on lit cela, franchement, on se dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Non, Dieu va d'abord éliminer énormément d'êtres humains. Parce que là, on arrive vers la fin de la tribulation. On est dans la grande tribulation. Et après, les armées vont se lier contre Israël. Pour essayer de détruire Israël. Donc Dieu là est en train de couper, de couper, de couper par ses jugements. La vie des hommes. Donc là, Dieu va toucher à quelque chose. Qui s'appelle l'eau. Et l'eau est un des éléments vitaux, ou vitaux, je sais, vitaux. C'est français, c'est terrible. Un des éléments vitaux.
Tchadje Mondek. Abantu rero, amazi, amazi murazi yuko, ari ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu.
Sans eau,
atamazi ahari,
toute la vie biologique meurt.
Ubuzima bw'abantu bwose burononekara.
L'eau est vraiment un élément indispensable pour la vie.
Amazi turazi ko ari ikintu gikomeye kubw'ubuzima bw'abana b'abantu.
On parle actuellement de la guerre de l'eau.
Muri kino gihe bariko bavuga ko hariko haraba intambara ya kubw'amazi.
Le siècle que nous avons commencé.
Iki kinjana twatanguye kwinjiramwo.
Va être un siècle où les gens vont se bagarrer pour l'eau. D'ailleurs, ça a commencé dans certains endroits.
Kizobe kinjana aha abantu bazogwanira kuba bafise amazi byaranatanguye.
Nous avons la grâce d'avoir une immense ressource d'eau juste à côté.
Twebwe twatewe iteka dufise urusoko rw'amazi ngaho rwibereyaho.
Mais nous sommes un des rares pays africains si ce n'est le seul où on peut boire l'eau du robinet telle quelle, frères et sœurs.
Ariko turi mu bihugu bike byo muri Afrika nimba tari twebwe twe nyene dushobora kunwa amazi yo mu robine akivayo.
Et c'est rare ça.
Kandi birahantu
hake. Dans beaucoup de pays du monde ça n'existe plus.
Ahantu hake cyane mwisi mu bihugu byinshi byo kwisi ntibikibaho.
L'eau
amazi
est un enjeu gigantesque et sera un enjeu énorme dans les prochaines dizaines d'années.
Amazi rero ni ikintu gikomeye cyane kandi mu myaka iri imbere ho bizoba birushirije.
Certains ont appelé l'eau l'or bleu.
Hari abantu bise ngo amazi ngo ni inzahabu isa n'ubururu.
Si vous arrivez à priver une nation d'eau, vous tuez tous ses habitants. Israël le savait bien.
abanyisraeli bari babizi.
Ils ont créé tout un système pour avoir de l'eau.
Bacha baragerageza uburyo bwose barashyiraho ibintu byo baha amazi.
Ça a été d'ailleurs extrêmement difficile, il y a eu beaucoup d'histoires sur ça.
Bere byaranabagoye cyane harabaye n'ibintu byinshi.
Regardez sur internet, vous allez voir les pays qui manquent d'eau, les pays qui sont rationnés, etc. C'est très intéressant.
Mugiye kureba kuri internet mukarabihugu bibuza amazi, ibindi bifise amazi n'ibintu bi.
L'eau est vraiment quelque chose d'indispensable. Plus la population du monde augmente, plus l'eau est un enjeu gigantesque. Et en fait, Dieu ici va clairement remettre les pendules à l'heure. L'eau, c'est quelque chose qui nous paraît tellement naturel. Est-ce qu'on est en train de réfléchir quand on boit un verre d'eau? Non, sauf si vous êtes pentecôtiste de chez pentecôtiste, vous remerciez le Seigneur pour le verre d'eau. Et même pour le verre vide. Mais trêve de plaisanterie, mais sérieusement, on est là, on boit d'une façon naturelle, parce que pour nous, c'est naturel de boire de l'eau. Mais là, Dieu va être clair. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les pécheurs qui ont récupéré les richesses que Dieu a mises dans la terre. La grande majorité des ressources que Dieu a mises sur cette terre sont gérées par les pécheurs. Dieu va leur dire, parce qu'on est dans le temps de la grande tribulation, ça c'est moi qui l'ai mis cette eau. Et vous voyez, si je coupe le robinet, entre guillemets, vous allez mourir. Vous allez voir la suite. C'est très intéressant ce que Dieu va, la parole de Dieu va nous révéler. Il y a tellement de choses, vous savez, qu'on prend, comme on dit en français, pour argent comptant, parce qu'on a tellement l'habitude. Le soleil, par exemple, le soleil est là tous les jours, frères et sœurs. Le jour est là tous les jours. La lumière. On n'est pas en train de réfléchir et de se dire, est-ce que Dieu va nous éclairer aujourd'hui? Non. Et Jésus dira même que Dieu fait pleuvoir sur qui? Sur les méchants comme sur les justes. Pourquoi? Parce que Dieu a créé des systèmes où il donne l'occasion à tous les êtres humains qui vont naître sur cette terre de pouvoir en profiter. Mais là, Dieu va toucher à des éléments vitaux de la vie. Pour dire aux hommes, c'est moi qui ai fait tout ça. Vous m'avez méprisé. Vous avez été jusqu'au bout dans votre haine pour moi, dans votre péché. Vous avez fait des pactes horribles avec Satan. Vous avez été jusqu'au bout du bout, le pire de ce que vous pouviez faire. Et nous allons découvrir ce que les hommes vont faire, le pire du pire. Maintenant, vous allez voir qui a créé les cieux et la terre. Vous m'avez craché dessus, vous m'avez méprisé, vous m'avez insulté. Plutôt que de dire merci pour tout ce que vous avez à votre disposition. C'est ce que Dieu va dire ici. Il est parlé de cette absinthe, l'absinthe ici dans ces versets. On va reprendre peut-être en... Voilà, verset 11, il est dit, le nom de cette étoile est absinthe. Alors, bien évidemment, vous avez compris que cette étoile n'est pas quelque chose de physique. Je vous rappelle que Dieu ne peut pas envoyer une étoile sur la terre parce que sinon ça engloberait toute la terre et il n'y aurait plus de terre. Tellement une étoile est énorme par rapport à la terre. Donc là, c'est bien sûr quelque chose de figuratif. Ça veut dire quelque chose qui va venir du ciel, un jugement qui vient du ciel, de Dieu, qui va venir frapper les hommes. Et absinthe, ça veut dire ni plus ni moins amer.
Donc,
cette étoile, son nom c'est absinthe, c'est-à-dire ça va donner, ça va rendre l'eau amère, c'est-à-dire l'eau ne va plus, va plus devenir potable. Et quand l'eau n'est plus potable, les hommes meurent. Voilà. Ensuite, verset 12. Il est dit, le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit même.
Ikigira gatatu cy'izuba n'ikigira gatatu cy'ukwezi n'ikigira gatatu cy'inyenyeri birakubitwa kugira ngo ikigira gatatu cyavyo gicure umwiza ikigira gatatu cyo mu bihe by'umurango nticakigwe no mwijoro nuko
là ça va être quelque chose de physique.
Ah rero bigiye kuba ibintu bifadika rero,
parce qu'il y a plusieurs passages de la Bible.
Kuko hari ibice byinshi byo mu ijambo
ry'Imana. On va juste en lire un. Il y a plusieurs passages de la Bible qui vont nous montrer que sur le soleil, physiquement, il va y avoir une modification instantanée. Qu'il va vraiment y avoir des modifications dans le deuxième ciel. Sur les planètes et sur les étoiles. Et là, ça sera une réalité. Là, c'est physique, ce dont on parle ici. Quand vous voyez des étoiles qui tombent sur la Terre, on ne peut pas considérer que ce soit physique. Une étoile ne peut pas tomber sur la Terre, je tiens à vous le rappeler. Je vous dis, une étoile, c'est énormément plus gigantesque que la Terre. Donc si Dieu permettait à ce qu'une seule étoile physiquement tombe sur la Terre, il n'y aurait plus rien d'un seul coup. Par contre, là, on parle du soleil qui s'obscurcit. Un tiers du soleil, un tiers de la lune, évidemment, puisque la lune reflète le soleil. Un tiers des étoiles. Là, on parle de la clarté. En fait, les gens vont regarder en l'air et vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans les anciens temps, quand les gens voyaient ce qu'on appelle une éclipse de la lune, c'est-à-dire la lune qui commençait à cacher une partie du soleil, les gens croyaient tout un tas de choses. Les gens qui n'avaient pas, il y a très longtemps, il y a eu beaucoup de superstitions sur ces histoires-là. Les moindres phénomènes que les gens ont observés dans le ciel, tout de suite, c'était, ils disaient, ça y est, c'est un dieu qui fait ça, c'est des démons, c'est ceci, enfin toutes sortes de choses. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ces histoires. Les gens avaient peur. C'est courant ça. Et acte 2, verset 16 à 21. C'est une prophétie que Pierre reprend. Une prophétie de Joël, du prophète Joël. Ça va nous parler des mêmes phénomènes. Mais je vais vous expliquer à partir du verset 16, s'il vous plaît. Je vais vous donner quelques explications. Donc vous vous rappelez, c'est Pierre. Ils viennent tout juste de vivre la Pentecôte. La gloire de Dieu est descendue sur les 120. Et 3000 personnes se sont massées autour de la maison. Et ils sont choqués, ils se disent, qu'est-ce qui se passe ici? Pierre se lève et dit, écoutez, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est ici que ce que le prophète Joël donc a déclaré. Et là, il va expliquer des choses à propos du Saint-Esprit de la Pentecôte. Mais Pierre va citer ce passage en allant un peu trop loin. Et je vais encore vous montrer quelque chose qui va vous aider à comprendre les Écritures. Dans ces derniers jours, dit Dieu, alors les derniers jours, c'est le temps de l'Église. Dans ces derniers jours, dit Dieu, le temps de l'Église, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On connaît tous ce passage, on le cite très souvent. Ensuite, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On aime bien ces passages, ça nous inspire, ça, etc. Ça, c'est pour le temps de l'Église. Je ferai paraître Il va continuer à lire la prophétie, mais il ne va pas discerner les temps ici. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil, regardez, le soleil se changera en quoi ? En ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Donc il va citer, il va parler du temps de l'Église, la première partie que nous avons lue, mais au verset 20, il parle de phénomènes naturels, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, le soleil, la lune, avant le jour du Seigneur. Et nous découvrirons que le jour du Seigneur, c'est le deuxième retour de Christ. Rappelez-vous, ici Pierre, on est dans Acte 2. On est au début de l'Église. Il cite quoi ? Un prophète de l'Ancien Testament. Prophète Joël. Et je vous ai dit, et je vous répéterai encore, ça se prouve encore ici, toutes les prophéties que ces prophètes de l'Ancien Testament avaient reçues, ils ne voyaient pas la coupure du temps de l'Église. Pour eux, c'était une seule chose qui se passait en même temps.
Vous
voyez ? Jusqu'au verset 19, ça concerne l'Église. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, etc. Vos jeunes gens auront des visions, on a un vieillard. Hein? Tout ça, c'est l'Église. Ça, c'est pour nous. Et d'un seul coup, au verset 20, ça concerne quoi ? La tribulation. La tribulation. Et nous retrouvons exactement les mêmes principes. Dieu va toucher au soleil. Conséquence sur la lune. Revenons dans Apocalypse 8. Dans ce verset 12. Et on voit, vous savez, les gens ont peur. Quand il y a parfois des phénomènes dans le ciel qui font bizarre, les gens ont rapidement peur. Moi, je me souviens un jour, quand on vivait aux États-Unis, on était dans une région, on était dans l'Oklahoma, dans le centre. C'était un endroit où il y avait beaucoup de tornades. Et c'était incroyable. C'est des trucs comme ça de vent qui tournent. Et ça fait comme un aspirateur. Ça arrive dans un endroit et ça tourne comme ça. Et vous voyez les maisons qui vont comme ça. C'est extrêmement dangereux.
Et
il prévenait à la télévision partout, il y avait ce qu'on appelait tornado watch, c'est-à-dire faire les sirènes pour les tornades.
Il prévenait
et il disait aux gens, il faut fuir. Parce qu'il y a une tornade qui arrive. Mais ce qui était très bizarre, c'était de voir le changement du ciel. Je me souviens un jour, il y a une tornade qui n'est pas passée très loin de la ville où on était. Et d'un seul coup, le ciel est devenu bizarre. Et honnêtement, ça faisait, quand on regardait le ciel, on se disait, waouh. Vous savez, des fois on dit, merci Seigneur parce que je suis sauvé. Hein. Mais c'était vraiment bizarre. Le ciel avait une couleur d'un seul coup qui n'était pas habituelle. La température avait fait comme ça en 10 degrés en quelques minutes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai vu une seule fois. Mais honnêtement, ça, on se dit waouh! Et là, vous voyez, ils vont voir ce genre de phénomène. Là, on est au bout de la tribulation. Et les gens, franchement, vont vraiment souffrir de ce
côté-là.
Ça va être terrible pour eux. Le verset 13 nous dit, je regardais, j'entendis un aigle qui volait du milieu du ciel et disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette. Que les trois anges vont faire retentir. Donc là encore, il va y avoir une intensification. Vous voyez, à chaque fois qu'on s'approche de la fin, je dirais, de certains événements que Dieu veut faire, il y a encore une accélération où Dieu envoie ses jugements de plus en plus fort. Au chapitre 9, nous allons découvrir comment Dieu, au début du chapitre, va faire sortir des créatures dont la Bible va nous parler une seule fois. Des créatures qui gardent les esprits de ceux qui sont en enfer, qui tourmentent ceux qui sont en enfer. Et aussi qui tourmentent les démons qui ont été capturés. Quand Satan s'est rebellé, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Mais en fait, ce que Dieu va faire vivre dans la trompette suivante, c'est qu'il va amener l'enfer sur la terre. Ça veut dire qu'il va amener les gens à souffrir et il va les tourmenter par ses créatures. Et les gens, la Bible nous dit que les hommes vont chercher la mort et ne vont pas la trouver. C'est exactement ce que les gens vivent en enfer. Ils sont tourmentés et ça ne cesse pas. Dieu va amener l'état de l'enfer sur la terre. Et nous allons découvrir que les prisons des esprits sont bien gardées par des créatures que la Bible va nous décrire, qui sont assez étonnantes, en tout cas dans la description que Jean va nous donner. C'est la seule fois qu'on va entendre parler de ces créatures. Ce sont des créatures que Dieu a créées pour tourmenter des gens qui l'ont refusé et des esprits qui se sont rebellés. Rappelez-vous d'une chose, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu aussi a une patience qui s'arrête un jour. Dieu est un Dieu de jugement, et quand il frappe, vaut mieux pas être dans le coin, parce que ça fait mal. Et les hommes qui lui ont désobéi, sérieusement, et vous savez, je veux vous enseigner ça, parce que je veux que vous ayez conscience que l'enfer n'a pas été créé parce que Dieu avait envie de le créer. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu d'emmener les hommes en enfer. Ce n'est pas son plaisir. Même des gens qui se sont rebellés contre lui. Mais Dieu doit exercer sa justice. Et Dieu a des jugements pour ceux qui ne veulent pas de lui, qui
refusent.
Je veux d'abord que vous ayez conscience du prix de votre salut. Ensuite, je veux que vous ayez conscience du besoin que les hommes ont d'entendre l'évangile de Christ. Parce que Dieu, dans sa pensée, quand il a créé l'homme, il n'a pas voulu l'enfer.
Mais
il a dû créer l'enfer. Parce que ceux qui marchent dans le péché, dans la désobéissance, dans le refus d'être avec le Créateur, ils doivent être jugés et punis. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il donne le choix. C'est pour ça d'ailleurs que la grâce de Dieu est de quelque chose de tellement simple à recevoir. Il a tout fait. L'homme a juste besoin de reconnaître tel, qui il est, de se repentir sincèrement, de lui demander pardon sincèrement, Et n'importe qui dans ce monde, quels que soient les péchés qu'il ait pu faire, si vraiment il se repent sincèrement, Dieu va le sauver et lui donner l'éternité. Et on va étudier ça la prochaine fois. Parce que je veux que vous ayez conscience
qu'au
centre de la terre, il y a une prison d'esprit et qu'il y a des créatures de Dieu qui contrôlent cet endroit. Et ce jour-là qu'ils vont sortir pour aller tourmenter les hommes, pour montrer aux hommes physiquement ce que c'est sur la terre, l'enfer. Nous allons voir ces choses parce que nous avons besoin d'en prendre conscience. Je veux que vous soyez enseignés et que vous ayez conscience de ce monde invisible. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.